Le journal des idées, Jacques Meunier.
Bonjour Jacques.
Bonjour Émilie, bonjour à tous.
On le sait, les peuples traditionnels ont beaucoup à nous apprendre en matière de rapport à la nature.
Oui, et ce sont les ethnologues qui nous transmettent le plus souvent leurs leçons. Cécile Domas a rencontré pour Libération Nastassia Martin, partie étudier les Gwich'in, les derniers en Alaska à avoir été touchés par l'Occident. Quand elle arrive à Fort Yukon, à 13 km du cercle arctique, la jeune chercheuse, en thèse avec Philippe Descola, observe avec consternation un village en ruine, des habitants déprimés aux frontières d'une nature certes sublime mais ceinturée de parcs nationaux et survolée par les coucous emplis de touristes à la recherche du caribou perdu. Et, dit-elle, une nature presque parquée comme un zoo à ciel ouvert. Avant, ces hommes vivaient en relation avec la nature, ils étaient désormais rejetés hors de leur territoire, pris en étau entre l'exploitation du pétrole abondant dans la région et la comédie moderne des parcs nationaux qui, au prétexte de préserver la nature, aboutissent à une intrusion insupportable dans les modes de vie traditionnels. L'anthropologue dira cette déception dans un livre paru l'an dernier à La Découverte sous le titre « Les âmes sauvages » où elle s'attache à montrer comment un peuple peut développer dans ces circonstances une force subversive, une manière de faire monde radicalement différente. C'est que Nastassia Martin, au-delà d'une ethnographie descriptive, mène une anthropologie réflexive qui interroge le lien entre l'environnement, les hommes, les systèmes politiques et la relation qu'elle-même entretient avec son terrain. Un terrain qui l'a conduit au Kamtchatka russe, pour voir comment les peuples chasseurs de cette région ont fait face à un autre effondrement, cette fois idéologique, celui de l'Union soviétique. C'est là aussi... c'est aussi le monde des vivants non humains qu'elle rencontre sur un plateau aride cerné de glaciers. Elle se retrouve nez à nez avec un ours. Elle a raconté dans la revue Terrain cette terrible confrontation qui a failli lui coûter la vie. Je cite, « Il me montre les dents, il a peur sûrement, moi aussi j'ai peur, mais je ne peux pas fuir. Je l'imite, je lui montre les dents. Tout va très vite, ensuite nous entrons en collision, il me fait basculer, j'ai les mains dans ses poils, il me mord le visage, puis la tête, je sens mes os qui craquent, je me dis je meurs, mais je ne meurs pas. » Pleinement consciente, elle saisit son piolet et le frappe sans savoir où, car les yeux fermés, elle n'est plus que sensation et s'aperçoit qu'elle l'a mise en fuite, en boitant. Sur son arme de fortune, elle voit du sang et reste là, hallucinée et sanguinolente.
La revue Terrain, dont la dernière livraison porte sur un thème différemment explosif et dont oui. François Angelier nous a parlé la semaine dernière, c'est jouir.
Voilà, absolument, dernier numéro, dernière livraison de la revue Terrain. Alors, je cite, dans les pages de Triste Tropique, consacré au Nambikwara, relève Agnès Giard, Emmanuel Grimaud et Anne-Christine Taylor, qui ont coordonné le numéro. Lévi-Strauss évoque le trouble que lui inspirait le contraste entre l'érotisme puissant mais diffus, caractéristique du comportement de ces Indiens, et le peu d'importance qu'il semblait accorder à la sexualité génitale, le plaisir recherché paraissant moins d'ordre physique que ludique et sentimental. Et l'anthropologue d'ajouter qu'au cours des jeux amoureux auxquels les couples se livrent si volontiers, si publiquement, et qui sont souvent audacieux, je n'ai noté jamais noté un début d'érection. Jouir ailleurs et autrement révèle aussi une manière différente d'être au monde et entre soi, à travers les jeux subtils de l'audace et de la pudeur. Philippe Erickson a observé toutes les nuances de l'attachement érotique chez les Indiens d'Amazonie, en particulier chez les Matis, où comme dans bien d'autres sociétés amazoniennes, les relations entre cousins croisés de sexes opposés ont une très forte visibilité et dégagent une sensualité considérable. Mais des relations affinitaires entre cousins croisés du même sexe peuvent avoir la même charge érotique, en plus de la promesse tangible de l'échange des sœurs. Faute de conjointes potentielles disponibles, les jeunes gens ont parfois du mal à se marier, du moins durant leur adolescence, écrit encore Lévi-Strauss. Le problème qui s'ensuit est réglé dans la société Nambikwara par des relations homosexuelles qui reçoivent le nom plutôt poétique de pseudo-amour. De telles relations passent surtout pour puériles et personne ne leur prête beaucoup d'attention, ajoute l'anthropologue, qui n'a pas réussi à savoir si les partenaires allaient ou non jusqu'à la pleine satisfaction sexuelle ou s'ils se limitaient simplement aux effusions sentimentales et comportements érotiques. érotique, généralement cantonnée aux relations entre époux. Cependant, une observation plus scrupuleuse permet de s'apercevoir qu'une telle liberté de ton et de mœurs n'est aucunement incompatible avec une grande emphase sur la pudeur et une idéologie qui met fortement l'accent sur les notions de contrôle de soi et d'abstinence sous toutes ses formes, alimentaire, comportementale ou encore sexuelle, précise Philippe Erickson, qui ajoute que c'est encore plus vrai pour celles et ceux qui ont de fréquentes interactions avec les esprits. La vie sexuelle des chamans amazoniens est ainsi tout à la fois régie par une série d'interdits stricts et compensée par des échappatoires oniriques.